Merci, Amy. Eh bien, bonjour à chacun. Normalement, il y a plusieurs personnes qui sont ici pour une première fois, peut-être pour quelques fois. Mon nom est Gilles Farley, je suis membre de l'équipe pastorale ici à l'Église. Et je vais vous apporter la parole ce matin, mais je vais vous donner un peu de nouvelles de notre frère Normand Joseph. Il était ici dimanche passé, comme vous savez. Il était assis, la jambe allongée. Il était au service de 9 heures. Probablement qu'il va être ici au service de 11 heures pour avoir l'occasion de voir ceux qui viennent à ce service-là. Et il devrait être le prédicateur dimanche prochain. Il était ici mardi, il était en béquille, il ne marchait pas sur la jambe, le pied qui était brisé. Je pense qu'il va se faire enlever le plâtre là, juste avant dimanche prochain. Mais je doute qu'il soit capable de ne pas avoir de béquille ou de ne pas avoir de canne. Alors, on va pouvoir s'amuser un petit peu en le voyant. Hein? En tout cas, moi, c'est... Alors, bienvenue à chacun qui sont ici. Il y a un mois environ, j'ai mentionné les valeurs de notre monde. Et c'est assez facile à connaître les valeurs que notre monde a. Le désir d'être plus riche, le désir d'être en santé, le désir d'avoir du plaisir, le désir d'être apprécié par les gens, d'être considéré par les autres comme quelqu'un d'important, de talentueux. Mais en même temps, les valeurs du chrétien sont pas mal autres que cela. Et j'avais lu un passage dans Jérémie dans lequel Jérémie avertissait le peuple. Il faisait plus qu'avertir. Il condamnait le peuple d'Israël pour avoir délaissé le vrai Dieu. Et c'était dans Jérémie 2, 11, chapitre 2, les versets 2, 11 à 12. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est aucun de secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. D'après ce texte, les nations qui entouraient Israël avaient demeuré fidèles à leur Dieu, même si ce n'étaient pas des dieux, même s'ils ne pouvaient pas écouter, intervenir, ils avaient quand même demeuré fidèles, mais le peuple d'Israël devint un Dieu qui est le Dieu créateur, qui avait agi à travers toute l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, se voit abandonné par son peuple. Et son peuple se tourne vers ces dieux qui ne peuvent rien. C'est assez étonnant de croire que c'est arrivé. Il y a un autre avertissement qu'on peut voir dans Colossiens, chapitre 3, verset 8. « Prenez garde, dit l'apôtre Paul, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Eh bien, on va continuer notre étude dans le passage de 2 Thessaloniciens au chapitre 1. Et lors qu'on avait examiné les valeurs de notre apôtre Paul, on avait examiné les versets 3 jusqu'à 10. Et on avait vu les valeurs de Paul, mais tournez, gardez votre doigt dans 2 Thessaloniciens et j'aimerais qu'on aille dans Actes chapitre 17 pour nous remettre dans le contexte un peu de cette église de Thessalonique. Je vais vous dire, quand on lit en avant les frères, on a une ombre. Ah, ça c'est pas mal une amélioration. Alors, chapitre 17, les versets 1, ça va nous rappeler un peu comment Paul est arrivé là. Alors, il est au deuxième voyage missionnaire, il y a eu des difficultés ailleurs, il arrive à Thessalonique. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînèrent sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Alors, Paul, dans ces versets-là, arrive à Thessalonique, va dans la synagogue et pendant trois sabbats va prêcher l'Évangile librement. Des Juifs vont être convaincus de l'Évangile, de l'arrivée du Messie, mais un grand nombre de non-Juifs aussi. Quelques années après, Paul de Corinthe décide d'écrire à ses croyants qu'il a vu naître, à ses croyants à qui il a prêché l'Évangile, pour qui il est le Père spirituel. Et vous pouvez imaginer la joie qu'il avait d'écrire, surtout qu'il a eu des bonnes nouvelles de Timothée. Paul, dans 1 Thessaloniciens, dans sa première épître, nous rapporte qu'il raconte qu'il était inquiet un peu, mais là, Timothée revient avec des nouvelles excellentes. Et dans ce passage de 2 Thessaloniciens, les chapitres 1, 3 à 10, on voit Paul qui est reconnaissant pour le progrès de ses enfants spirituels. Et il s'en réjouit. Et les sujets de sa reconnaissance, eh bien, nous révèlent qu'est-ce qui est important pour Paul. Quelles sont ses valeurs? Et en résumé, on a vu que c'était ce qui le réjouissait par-dessus tout, c'était que la grâce de Dieu s'était manifestée dans leur vie. Dans ceux qui lui sont chers, il avait vu un progrès constant, un progrès dans leur maturité chrétienne, une transformation qui les rapprochait de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et Paul en était hautement reconnaissant à Dieu d'avoir vu la grâce se manifester chez ses enfants spirituels. Mais l'autre élément, l'autre valeur, l'autre sujet de joie, c'est qu'il voyait que les Thessaloniciens n'avaient pas les yeux fixés sur le quotidien, sur les tribulations, sur les persécutions, sur les épreuves. Mais ils avaient les yeux fixés sur ce qui était pour arriver un jour où Dieu leur donnerait du repos, comme il mentionne au verset 10, mais aussi condamnerait ceux qui n'ont pas pris leur foi en Jésus-Christ. Alors, les Thessaloniciens avaient leurs yeux sur la fin, et cela leur permettait de marcher fidèlement aujourd'hui. Paul se réjouit du progrès que l'Évangile a parmi eux. Lors d'un message d'Alexandre, il nous a mentionné la sagesse d'une jeune dame, mais un petit peu plus vieux que lui, qui lui a rappelé que c'est vrai que nos aliments, nos bouteilles ont une date, et que ça nous dit que ça devrait être mieux de manger, de boire cet aliment-là avant une certaine date. Mais elle lui a rappelé que les aliments à l'intérieur du contenant n'ont pas été programmés pour se détruire arrivés à cette date. Et il a utilisé ça comme exemple pour dire que La grâce de Dieu n'a pas une date non plus. Ce n'est pas une date d'expiration qui vient immédiatement après qu'on a mis notre confiance en Christ. La grâce de Dieu dure éternellement en réalité. Et ici, l'apôtre Paul se réjouit que la grâce de Dieu continue d'agir chez les Thessaloniciens. Je peux vous dire que nombreuses sont les fois que, soit en conseil, soit en rencontre d'équipe pastorale, ou même entre vous, vous avez cette joie de parler du progrès de l'Évangile dans la vie d'un frère et d'une sœur. Et ça produit en vous toute une joie aussi. Alors, on peut comprendre la reconnaissance de Paul pour ces choses, et ça l'indique quand nous, on se réjouit pour ces mêmes raisons-là, eh bien, qu'on a les mêmes valeurs que l'apôtre Paul. Quelle joie de voir quelqu'un qui est pris par la maladie et qui voit le nombre de ses jours qui lui reste à vivre sur cette terre ne pas être tellement nombreux. Et par contre, il ne s'en préoccupe pas trop. Il sait que ça va arriver, mais ce pourquoi il se préoccupe davantage, c'est de vivre fidèlement pour le Seigneur et de glorifier son nom. C'est certainement une indication que la personne a les yeux, non pour l'immédiat, non pour les valeurs qu'on revoit dans ce siècle, mais pour les valeurs telles que Paul les a mentionnées, et cette assurance qu'un jour, on va avoir un salut pleinement accompli. Dans les versets qui suivent, les versets 11-12, on n'a pas plusieurs affaires, 11-12, Paul va répondre à plusieurs questions. Et au verset 11, il va dire, « Quelle requête découle de ces valeurs? Si cela sont nos valeurs, sont les valeurs de Paul, eh bien, il va poursuivre avec des requêtes qui sont fidèles, qui vont avec les valeurs qu'il a. Au verset 12, il va nous parler de son but ultime et en même temps, il va nous parler de comment c'est possible d'y arriver. Alors, on va chercher ses réponses dans ces versets et lisons ensemble, si vous voulez, les versets 11-12, mais juste avant de la lecture, remettons notre temps dans les mains de Dieu. Seigneur Dieu, comment on est reconnaissant que tu es venu sur cette terre dans un seul but. Le but de permettre qu'on puisse être réconcilié avec toi. Comme ce chien attaché à la croix, Seigneur, nous l'a rappelé, tu es venu dans un seul but, qu'on puisse être réconcilié. Un jour être appelé ton enfant. Ce matin, Seigneur, sois avec chacun de nous, qu'on ait un cœur prêt à écouter ce que toi, tu as à nous dire. Pas ce que moi, j'ai à dire, je ne suis qu'un outil dans tes mains. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre le mien, qu'on soit désireux d'entendre ce que tu as à nous dire, mais aussi désireux de partir d'ici encouragé, confiant que tu n'abandonnes pas ton enfant, que ta grâce n'a pas une date qui vient, qui indique que la grâce ne s'applique plus. Non, tu ne nous abandonnes pas et que tu vas continuer ton travail jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, pour cette liberté qu'on a de pouvoir se rencontrer librement et de pouvoir t'adorer en ta louange et étudier ta parole et apprendre qui tu es davantage. En ton nom. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens, les versets 11 et 12. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi fait référence au verset, au passage 3 à 10, aux valeurs que Paul a et qu'il a mentionnées. Et ça l'amène à prier pour les Thessaloniciens d'une certaine manière. Et sa prière reflète ces valeurs, comme vous ai mentionné. Plusieurs, dans notre vie de prière, dévoilent ce qu'on pense de nous-mêmes. Bien d'entre nous, et je m'inclus dans cela, trop souvent, on se considère un enfant de Dieu capable, par nos propres forces, de marcher, un peu indépendant de Dieu, autonome. Dès notre naissance, on nous a rappelé qu'on était capable, et même dans notre naissance spirituelle, on a cette pensée qui revient qu'on est capable par nous-mêmes aussi. Alors, notre temps de prière est pas mal sporadique. Et on va à Dieu occasionnellement, malheureusement. On va chercher conseil. On a une décision importante, on aimerait qu'il nous donne un conseil, qu'il nous donne une décision juste. Peut-être une bénédiction de sa part. Un travail, peut-être une guérison, un soulagement dans la maladie. Et on va aller occasionnellement demander une intervention de la part de Dieu dans notre vie pour qu'il intervienne. Mais dans ce verset, on voit au verset 11 que Paul priait constamment. La prière, ça faisait partie de sa vie. Ça n'indique pas que Paul était à genoux constamment, mais il était constamment en relation avec Dieu. Dans sa journée, au courant de la journée, il se confiait à Dieu, il était reconnaissant à Dieu, et il avait une dépendance sur Dieu réelle pour chaque élément de sa vie. On a une dépendance réelle sur Dieu dans notre vie. On peut perdre la vie comme cela. C'est une réalité, c'est une vérité, mais ce n'est pas toujours ce qui me vient en tête et ce que je crois. Et on voit ici un exemple de l'apôtre Paul qui, lui, comprend et vit cette dépendance d'une façon constante. Et il sait que les Thessaloniciens ont besoin des prières de Paul. Et il va continuer avec une première requête qui suit, et il va dire, « Afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel. » Cette première référence, cette première requête fait référence à l'appel de Dieu et le changement que Dieu opère en nous. Certainement, dans plusieurs des versions, c'est marqué que « Afin que notre Dieu vous juge digne de son appel. » Dans la seconde 21, c'est marqué « Afin que Dieu vous trouve digne de son appel. » Pas « juge de son appel. » Et il y a un commentaire qui, lui, préférait et disait que le grec, je ne peux pas le juger comme tel, mais disait qu'au lieu d'utiliser le mot « juge digne de son appel », il dit que Dieu vous rende digne de son appel. Toute une différence tant qu'à moi. Et certainement qu'il est impossible qu'on soit jugé digne parce que ma conduite est telle que devant Dieu, il va dire, « Ah, Gilles, tu as tellement marché comme j'ai marché sur cette terre, comme le modèle que je t'ai donné, qu'aujourd'hui tu mérites ta récompense, certainement pas. » Mais il parle ici de ce progrès dans notre maturité, de cette croissance dans notre maturité pour être capable de produire le fruit de l'Esprit, comme on a vu ce matin. Et la personne qui manifeste une marche digne de Dieu, eh bien, c'est une personne, selon la parole, qui marche selon l'Esprit, qui marche en humilité, qui marche en pureté, qui cherche à s'éloigner de tout ce qui est impur, qui marche avec un contentement, avec la foi que Dieu s'occupe de lui, va prendre soin de lui, qui marche avec un désir de faire justice et de lui-même être juste, qui marche avec un désir d'être uni avec les autres frères en Christ, qui manifeste une douceur, une patience, l'amour, la joie, la reconnaissance, et qui marche en démontrant qu'il connaît son Dieu davantage, qu'il peut appliquer la sagesse qui sort des Écritures dans sa vie de tous les jours, qu'il aime la vérité, qu'il manifeste le fruit de l'Esprit en totalité. Bref, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, on dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, si je le mets dans mes propres mots, si Gilles dit que je demeure en Jésus-Christ, eh bien que Gilles marche aussi comme Jésus-Christ a marché lui-même. Et donc, l'apôtre Paul prie que Dieu agisse par sa grâce pour que les Thessaloniciens grandissent et deviennent de plus en plus comme Christ lui-même. Il y a un verset que Awana utilise et que j'aime aussi me rappeler dans 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Alors, il y a cette même idée ici dans 2 Timothée, on ne voit pas la grâce de Dieu qui intervient et qui permet, mais il y a cette idée d'un jour se présenter devant Dieu et d'être trouvé digne. Et on voit ici digne de son appel. Ah, il y a des mots dans la Bible qui amènent bien des discussions. Matthieu, la semaine passée, dans le passage qu'il a traité, en a fait référence. Et à la fin, il a dit, bien, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et ici, dans la requête de Paul, on voit une référence à l'appel de Dieu. Bien, l'appel de Dieu, c'est notre conversion, c'est notre salut. Paul fait appel un peu à la souveraineté de Dieu qui permet que je sois sauvé. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi prier un Dieu qui est souverain. Il peut tout. Il connaît mes plus grands besoins en tant qu'enfant de Dieu. Il connaît vos besoins. Pourquoi est-ce que je devrais prier pour dire à Dieu ce qu'il connaît déjà, pour demander à Dieu de faire ce à quoi il s'est déjà engagé? Et dans cette première requête, on pourrait dire que Paul, qui dans Philippiens, chapitre 1, partage aux Philippiens que Dieu est en train d'accomplir une œuvre dans eux. Philippiens, chapitre 1, le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc, il affirme cela, il en a la conviction, et pourtant, il demande à Dieu de faire exactement ce que Philippiens 1, chapitre 6 mentionne. La Bible affirme clairement la souveraineté de Dieu. Je vais vous lire certaines références. Job 42, 1, 42, chapitre 42, verset 1, Job répond à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Le psaume 103, verset 19, dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Et un beau passage, Ésaïe, chapitre 46, verset 9. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Et on pourrait même mentionner la parole du Seigneur, Matthieu 28, 18, où Jésus, s'étant approché de ses apôtres, leur dit, « Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Mais si la Bible confirme la souveraineté de Dieu, elle ne confirme pas moins la responsabilité de l'homme. Et on peut citer d'autres exemples ou des passages bibliques où les personnes demandent à Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Je vais vous donner quelques exemples. Dans le Notre Père, dans la prière, dans son modèle de prière, Jésus dit à Matthieu, chapitre 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. » Dieu est souverain. Il peut tout. Et pourtant, Jésus dit « Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. » Paul sait clairement que Dieu a choisi souverainement ceux qu'il va sauver. Il en fait référence à plusieurs endroits, au Romains chapitre, on pourrait citer Éphésiens chapitre 1, Romains 9. Mais cela n'a pas empêché Paul de s'écrier au chapitre 10, verset 1. Frères, il s'adresse aux Romains, aux enfants de Dieu, les Romains qui étaient chrétiens. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. L'appel de Dieu, le partage de l'Évangile, le travail de l'Esprit et la réponse de l'homme font toute partie de la souveraineté de Dieu. C'est un ensemble. Ce n'est pas séparé. Et c'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui est au-dessus de notre compréhension. Un autre exemple, c'est un échange entre Dieu et, je crois, Dieu et Ézéchias. On arrive à 2 Rois, chapitre 20. Et Ézéchias apprend que du prophète Isaïe, qui vient voir le roi Ézéchias, et il dit à Ézéchias, « Voici ce que Dieu l'Éternel a dit. Donne tes ordres à ta famille que tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Et on connaît cette histoire-là. Alors, le roi Ézéchias, jusqu'à ce point, a eu une vie pas mal exemplaire, beaucoup de réformes à l'intérieur de son peuple. Et là, il apprend qu'il va mourir. Il est attristé. Et Ézéchias va demander à Dieu d'épargner sa vie. Et Dieu va accepter. On sait que Dieu va lui donner 15 ans de plus. Il demande à Dieu 15 ans de plus. Dieu vient lui dire ma volonté, ce qui va arriver, ce qui est déterminé, c'est que tu vas mourir. Ézéchias prie Dieu de l'épargner et Dieu acquiesce à sa demande, à sa requête et lui donne 15 ans de plus. Cet incident montre qu'une juste compréhension de la souveraineté de Dieu mène à des prières actives de la part d'Ézéchias et que Dieu peut choisir d'exaucer en changeant le cours des événements sans pour autant nuire à ses desseins souverains. C'est encore dans les plans de Dieu qu'Ézéchias ait 15 ans de plus, malgré la discussion qu'on voit. En effet, la réalité étonnante et incompréhensible encore d'une telle intervention divine, c'est qu'elle a toujours fait partie de la volonté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, dans la volonté de Dieu, était inclus la prière d'Ézéchias et la réponse de Dieu d'ajouter 15 ans à sa vie. Ça faisait partie de la souveraineté de Dieu. Non seulement la prière aligne le cœur sur le plan souverain de Dieu, mais Dieu se sert également de la prière pour accomplir son plan. Comme le dit Jacques, la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière est importante. Oui, elle nous aligne, elle nous permet d'être selon ce que Dieu désire. Elle nous permet de se soumettre à son plan, à sa volonté. Mais en même temps, elle fait partie de comment Dieu va accomplir son plan. Alors, Paul, ici, ne gaspille pas son temps de prier pour que Dieu intervienne. Maintenant, la deuxième partie de ce verset 11 est une deuxième requête. Et il dit, et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ici, Paul demande à Dieu d'utiliser sa puissance pour accomplir ce que les Thessaloniciens désirent accomplir. Dans la Louis II, la façon que c'est formulé, c'est moins clair que ce que Paul demande qu'il soit accompli sont les désirs des Thessaloniciens. Mais c'est le cas. Ce que Paul demande, c'est que le désir des Thessaloniciens soit accompli. Mais quel désir? Mais les désirs de faire le bien et toute œuvre de la foi. Maintenant, pour que Paul prie cela, c'est qu'il s'attend que Dieu ait transformé le cœur des Thessaloniciens de sorte que leurs désirs sont les désirs de Dieu. Dieu a travaillé tellement dans le cœur des Thessaloniciens qu'ils ont maintenant les mêmes désirs que Dieu. Il y a un passage dans le psaume 37, versets 3 à 5, qui nous parle de cela un peu. Ça dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alors, il y a une condition pour que l'Éternel me donne ce que mon cœur désire. Et ici, dans la requête de Paul, il demande à Dieu d'utiliser sa puissance pour accomplir ce que les Thessaloniciens ont comme désir. Mais les Thessaloniciens, avant, pour avoir les désirs de Dieu, ont fait de l'Éternel leur délice. Et c'est ce qui leur permet d'avoir des désirs que que Dieu veut qu'il soit accompli. C'est une transformation telle que Dieu est maintenant leur priorité. Et dans leur planification, ils cherchent à plaire à Dieu avant tout, par des projets qui ciblent faire le bien et des œuvres de la foi qui ont déjà été préparées par Dieu, selon Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Ils désirent que nous ayons une foi qui est agissante, comme mentionne Jean. Quand nous apprenons à désirer ce que Dieu désire, à aimer ce que Dieu aime, à haïr ce que Dieu haït, eh bien, notre prière est selon Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le résultat d'une transformation évidente. J'aime penser à la transformation que Dieu a fait dans les Thessaloniciens, fait dans chacun de vous, un peu comme la transformation que Dieu fait dans une personne qui, avant d'être sauvée, était voleur. Et vous allez voir pourquoi j'aime cette description-là. Ça démontre que la transformation que Dieu accomplit dans nous, nous change bout pour bout, comme on dit en québécois. Ceux qui ne sont pas d'origine québécoise vont dire, qu'est-ce que c'est ça? Vous en parlerez aux Québécois. Mais écoutez bien. Le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est déjà une bonne chose. Je suis un voleur, je ne vole plus. Hein? Mais plutôt qu'il travaille. Ça, c'est une deuxième transformation. Je volais, je ne vole plus. Mais là, plus que ça, je commence à travailler en faisant de mes mains ce qui est bien. Ah, c'est pas un travail qui est malhonnête, c'est un travail qui honore Dieu, qui élève Dieu. Mais la suite en dit long encore. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Avant, je volais les choses qui ne m'appartenaient pas pour me les approprier. Moi. C'était pas pour être le Robin des Bois des temps modernes. C'était pour les garder, pour m'enrichir, pour avoir l'auto de l'autre, le système de son de l'autre, la télévision de 60 pouces de l'autre. Et même, ça peut aller plus loin que ça, mais pour s'approprier des biens de l'autre. Ici, il arrête de voler. Il commence à travailler. Et de l'argent qu'il reçoit, il ne la garde même pas pour lui-même en totalité. Il s'en sert pour faire le bien à ceux qui sont dans le besoin. C'est toute une transformation. J'ai dit ça à un jeune homme, il va peut-être se reconnaître récemment. J'ai utilisé cet exemple pour parler de comment Dieu travaille dans sa vie et est en train de le changer. Après que j'ai lu ça, il dit, « Ouais, ça c'est à moi ça. » Mais on voit cela. En avril, on a entendu le témoignage de Jean-Jacques Asmic, un jeune homme, un voleur, un drogué, peut-être même un meurtrier, et qui maintenant travaille, met tout son temps à aider les gens qui sont pris avec les mêmes problèmes que lui de s'en sortir. Et comment les aide-t-il à s'en sortir? En leur prêchant l'Évangile. Une autre transformation, bout pour bout, et c'est ce que Dieu fait. Au verset 12, Paul continue, et il dit, « Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui. Certainement que quand on grandit dans le Seigneur, que le fruit de l'Esprit est de plus en plus manifeste, c'est tout un résultat. Le gars qui volait, qui maintenant partage le fruit de son labeur pour le donner à ceux qui sont dans le besoin, On peut louer Dieu pour ce résultat. Mais même si ces résultats de transformation sont grands et élogieux, Paul rappelle que le but ultime, finalement, c'est que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Ça, c'est le but ultime. Et il le dit dans 1 Corinthiens 10, 31, que tout ce que vous faites, vous le fassiez pour la gloire de notre Dieu. Et Paul désire que ceux qui portent le nom du Seigneur Jésus l'honorent lui seul. En même temps, il nous rappelle que les motifs doivent être purs. Et c'est facile de même prêcher en avant pour bien paraître, pour être élevé. C'est facile d'être placeur avec le motif que les autres remarquent que j'ai une place d'honneur ici. Ils me reconnaissent dans cette assemblée-là. On me donne le privilège d'être placeur. C'est possible d'avoir des mauvais motifs, d'avoir le désir d'être au centre. Moi, je suis au centre. Tout est à propos de moi et non à propos de Jésus-Christ. Paul est au courant de cela. Et il va leur dire, vos motifs, Thessaloniciens, toute cette croissance, tout ce changement qui arrive a un seul but, que Dieu soit glorifié. Mais là, lorsque notre but n'est pas la gloire de Dieu, mais notre propre gloire, il y a certains signes qui l'indiquent. Je vais vous en donner quelques-uns. Premièrement, quand on cherche notre propre gloire et non la gloire de Dieu, eh bien, il y a un sentiment de colère lorsque un autre reçoit des éloges. Ça nous achale. C'est moi qui aurais dû recevoir des éloges. On peut même s'impliquer dans la calomnie, dans la médisance de d'autres. Souvent, le truc commun pour s'élever, c'est d'abaisser les autres. Et la médisance, la calomnie peut être une manifestation. Mais les conflits, divisions, voyez, moi, j'ai raison. Moi, j'ai la sagesse de Dieu. Moi, j'ai une meilleure idée de ce qui doit être fait. Et l'autre, moi. Alors, j'insiste. Et je suis même prêt à aller à un conflit, à une division. Puis je dirais, il y a un autre indice qui est un peu plus subtil. Et c'est une grande facilité à prendre offense. Et ça aussi dévoile possiblement des motifs qui ne sont pas purs devant Dieu. Et Paul rappelle que tout ce que vous faites soit pour la gloire de notre Dieu. Il le rappelle cela. Matthieu 5, verset 16, le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pas vos bonnes œuvres, mais qu'ils voient la gloire de votre Père. Mais un autre partie à ce verset-là, et c'est ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous. C'est la version second 21. Et vous, en vous, et la vôtre en lui. Donc, ça dit que votre gloire soit révélée en lui. Alors, Paul ne cherche pas à ce que les Thessaloniciens s'élèvent en gloire, qu'ils recherchent la gloire. Il fait référence à d'autres choses. Et il pourrait faire référence certainement à la gloire que nous allons jouir à la fin des temps. Selon Romains 8, 30, hein? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous aurons un corps glorifié. Quand le Seigneur reviendra, nous allons partager la gloire de Dieu avec lui à ce moment-là. Mais la référence ici est aussi dans notre quotidien, maintenant. Lorsque nous grandissons en maturité, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, avoir une victoire sur un péché, c'est d'aller de gloire en gloire. Et on voit cela dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Donc, dès maintenant, nous sommes transformés et nous allons de gloire en gloire. Vous savez, on vient au Seigneur, Dieu fait un travail dans notre vie. Et à la fin des temps, Dieu va accomplir son œuvre. Et Gilles va devenir parfait. Plus une parole mal placée. Le fruit de l'Esprit va être parfait. Et à ce moment-là, ça va être un petit peu plus que 65 ans, parce que j'ai 65 ans là. Peut-être 65 ans et quelques années. L'image que j'ai, c'est que la marche va être impossible pour moi. Elle va être tellement élevée. Et avec la requête de Paul et sa mention que j'aille de gloire en gloire, ce que je vois, c'est que Dieu s'attend à ce qu'il y ait des marches pendant ma vie chrétienne. Et que chaque marche représente un rapprochement vers Dieu. Une capacité de marcher un peu plus digne. Et donc, au courant de ma vie, il va y avoir plusieurs petites marches. Et dans un sens, quand je vais arriver à la fin de ma vie, ben, il va rester encore pas mal une grande marche. Mais il va y avoir vu toutes ces petites marches-là. Et c'est l'image qu'il représente que dans ce qu'il dit, et que votre gloire soit en lui. Il retourne donc à ce qui nous attend à la fin des temps, n'est-ce pas? Paul est convaincu que la vie chrétienne peut être vécue seulement si elle est vécue en gardant en tête la gloire qui sera nôtre au retour du Seigneur. Et je crois qu'il a raison. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne comme on le doit sans avoir cette espérance en nous, sans avoir la fin des temps en perspective où Dieu va prendre son enfant, va l'amener avec lui et va lui donner du repos. Il est impossible d'accepter les offenses, les insultes, de pardonner même, sans avoir cela en perspective. Et il finit ce verset 12 en disant, « Conformément à la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Plusieurs entendent le message de l'Évangile et, comme j'ai mentionné au service, ils trouvent ça trop facile. Croire seulement sans qu'on gagne notre salut, voyons, c'est bien trop facile. Même nous qui sommes sauvés par grâce, on a cette même réflexion parfois. On pense tellement qu'on est capable que on dépend de nos propres forces. Et au lieu de voir notre croissance spirituelle dépendent sur Dieu, eh bien, on pense que nos forces vont l'accomplir. Mais ce n'est pas le cas. On doit se rappeler que si aujourd'hui, je peux dire « Merci Seigneur pour le salut que j'ai en toi », que c'est par une pure grâce de Dieu. Mais si je peux avoir une victoire, si je peux endurer persécution, accepter les épreuves que Dieu met sur mon chemin, mais c'est aussi de la grâce de Dieu. Paul finit donc sa prière en rappelant que même une marche de plus en plus à l'image de Dieu n'est possible que par sa grâce. Il n'est pas en train de dire aux Thessaloniciens, il faut que vous essayiez plus, il faut travailler plus fort. En même temps, il n'est pas en train de dire, vous devez vous asseoir sur vos lauriers. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est qu'ils doivent travailler à leur salut, comme Philippiens 2, 12 le dit. Mais le travail, le zèle, dans l'obéissance, dans la manifestation du fruit de l'Esprit, même cela, c'est le fruit de la grâce de Dieu et non de nos efforts. Ken Sandé, dans l'une conférence récemment, il dit que plusieurs croyants ont une vie d'enfant de Dieu qui inclut deux portes. La première porte représente la conversion de l'enfant de Dieu. La personne qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et à cette première porte, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. La deuxième porte arrive à la fin de notre vie. Et là, encore là, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste, qui nous prend en sa présence. Mais c'est une fausse image. L'Évangile doit agir à chaque moment de notre vie en tant que croyant. C'est l'Évangile qui nous permet de marcher d'une façon digne. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour marcher fidèlement pendant chaque heure, chaque moment de nos vies. Un chant que j'aime beaucoup, c'est un chant qui nous rappelle qu'à chaque instant, j'ai besoin de Dieu. Que la prière fasse partie de nos vies, de votre vie, et que nos requêtes reflètent les valeurs que nous avons. Et remettons les valeurs qu'on a à la lumière de ceux de Paul. Et qu'on demande à Dieu de manifester sa grâce dans nos vies, mais dans la vie de nos proches, pour qu'ils soient trouvés dignes au jour du Seigneur, et que leurs désirs, leurs projets soient ceux de Dieu afin de glorifier, honorer, élever notre Seigneur, notre Dieu. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je ne peux qu'être reconnaissant pour ta parole que tu nous as laissée. Je suis reconnaissant pour ton esprit qui nous permet de la saisir. Je suis reconnaissant pour les hommes que tu as donnés à ton Église qui nous aident à comprendre correctement le texte, Seigneur. Mais Seigneur, comment je suis reconnaissant que tu ne nous as pas abandonnés après notre conversion. Tu veux une présence chaque jour de notre vie. Tu veux agir. Tu nous aimes beaucoup plus qu'un amour inconditionnel. Tu veux réaliser un changement, bout pour bout, Seigneur, afin qu'on reflète ta gloire, qu'on élève ton nom. Merci, Seigneur Dieu. Amen.